Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Et nous vous proposons aujourd'hui un entretien qui a été enregistré en public le 14 octobre dernier en Côte d'Or, très précisément à la bibliothèque de Semur en Aussois, lors du quatrième rendez-vous du Cercle des auteurs bourguignons, initié par Virginie Ravarotto de la bibliothèque municipale de Semur en Aussois et de Cyril Lefebvre qui tient la librairie de La Poste dans cette même cité. Je salue le public qui nous accompagne et que je remercie. Merci à vous, cher public, et nous accueillons, dans le cadre de ce Cercle des auteurs bourguignons, le quatrième invité et dernier invité de l'année 2022, prochain rendez-vous du Cercle en janvier 2023, et c'est Irène Chauvy qui nous accompagne. Bonjour Irène Chauvy.
Bonjour.
Alors,
bonjour,
chère Irène Chauvy, nous nous étions rencontrés au tout début de votre aventure littéraire. C'était il y a 10 ans au Salon du Livre de Saulieu. Mmh. Et avant que de présenter votre dernier livre, alors d'abord c'est le tome 7 des aventures de votre capitaine Adrien à Honfleur. Donc ce tome 7 a pour titre « Le sang des aigles », c'est aux éditions Gaëlis. J'aimerais, Irène Chauvy, que vous nous expliquiez comment vous avez été la première fois édité. Vous avez été une gagnante.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire quelques mois, même peut-être 2 ans. Et puis je me suis dit, non, tu ne vas pas être comme Van Gogh, tu ne vas pas mourir inconnu. Donc j'ai participé à un concours, c'était Ça m'intéresse histoire, et c'était sous la présidence de Jean-François Parot. Donc, j'ai gagné le premier prix, à mon grand étonnement, pour le livre « La vengeance volée ».
Et c'était en 2011.
2011, et ensuite, il est paru dans la collection « Grand détective » 10-18, voilà.
Consécration.
Oui, consécration.
Magnifique, en tout cas. Et donc, le premier tome des aventures, donc, s'intitulait « La vengeance volée ».
Oui, alors j'en ai écrit par la suite, mais disons, oui, allez, il y a jusqu'à ce que mon sang suive qui passe avant la vengeance volée, mais il y a jusqu'à ce que mon sang suive puis la vengeance volée.
Alors, je ne vais pas tous les mentionner, mais effectivement, vous l'avez dit, jusqu'à ce que mort s'en suive, enquête à l'Opéra Impérial, la mouche du coche, etc. Et le tout dernier, paru l'an dernier.
Tout à fait.
Le sang des aigles, où nous retrouvons un personnage récurrent, c'est l'homme de votre vie littéraire, le capitaine Adrien à Honfleur. Donc nous sommes dans le Paris du Second Empire. Hein. L'action commence en janvier 1866.
Tout à fait.
Adrien à Honfleur rentre de l'île de la Réunion et il est déjà dans un sale pétrin parce que lorsqu'il débarque dans le port de Marseille, l'attendent des membres de la sûreté et de la police de Napoléon III. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur Adrien à Honfleur. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années, il a 31 ans là, je crois, en 1866.
Oui, je crois.
Et j'aimerais que vous nous expliquiez, puisqu'il est capitaine dans le corps des 100 gardes. C'est un militaire, c'est pas un policier, c'est pas un gendarme. Qu'est-ce que ce corps des 100 gardes?
Alors le corps des 100 gardes, c'est un corps de prestige, un escadron de cavalerie qui a été créé par Napoléon III en 1854. C'est un peu une de ses gardes rapprochées. Donc c'est vrai, c'est un peu un escadron décoratif, mais On sait que cet escadron et ses militaires se sont battus vaillamment en 1870 lors de la guerre franco-prussienne qui a vu la fin du Second Empire. Mais c'est vrai que pour entrer dans les 100 gardes, il fallait mesurer au moins 1,82 m. Adrien Longfer fait 1,85 m, voilà. Et on dit 100 gardes parce qu'ils n'étaient pas plus de 100, voilà. Et voilà. Et c'était de beaux hommes. Et les femmes les appréciaient beaucoup. Et un de leurs. Ils devaient être tout à fait impassibles et ne pas bouger. C'était une de leurs caractéristiques. Voilà.
Alors, c'est un véritable militaire.
Ah oui, il a fait Saint-Cyr. Hein. Il a fait Saint-Cyr. Il a connu la campagne d'Italie en 1859. Peut-être ces noms de villes vont vous dire quelque chose. Solferino, Magenta. D'ailleurs, c'est à cette époque-là et c'est à Solferino qu'a été initiée la Croix-Rouge. Hein. Puisqu'Henri Dunant, qui était venu voir Napoléon III, est resté effaré devant les atrocités commises et les blessures de ses soldats. Et il écrira souvenir de la campagne d'Italie et il sera la source de la Croix-Rouge. Voilà. Donc, Adrien Longfleur s'en sort, blessé, mais il s'en sort. Et ensuite, le comte de Persigny, qui est très proche de Napoléon III, le prend devient son mentor et devient un peu l'espion à tout faire. Et puis, comme ça marche bien, entre guillemets, il le prête à Napoléon III. Il le prête un petit peu à Napoléon III. Et Adrien à Longfleur, si vous voulez, mène des enquêtes en dehors de la hiérarchie militaire, des affaires qui sont soit peut-être gênantes pour le pouvoir, gênantes pour... voilà, et si vous voulez, c'est un petit peu, on dirait aujourd'hui, même si c'est anachronique à cette époque-là, c'est un électron libre. Voilà.
Oui, parce que d'ailleurs, Napoléon III a une sorte de dette à l'égard d'Adrien Longfleur, d'une certaine manière.
Oui, puisque le père d'Adrien Longfleur lui a prêté, en effet, lui a fait des prêts lorsqu'il était président de la République, parce que Napoléon III dépensait beaucoup.
Alors, vous l'avez dit, Irène Chauvy, Adrien à Longfleur est un militaire. Il est hanté tout de même par les morts, justement.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, une femme lui dit « Avez-vous laissé vos démons à la Réunion ?» Il a des nuits très perturbées par les souvenirs des camarades de combat qui sont morts dans des conditions parfois terribles.
Je voulais un héros, là aussi c'est anachronique, mais qui est le syndrome du survivant. C'est-à-dire que tout ça, tout le temps, ça va le suivre et dira mes fantômes, mes boulets, il fait des cauchemars, ses soldats, il les a toujours auprès de lui. Bon, là, au fur et à mesure que les années passent, il devient un peu plus désabusé et les fantômes se font un peu moins pressants. Mais c'est un poids qu'il porte en lui, voilà, et qui peut être assez actuel.
Et je cite un extrait du roman. Donc c'est Longfleur qui parle, il dit « J'aimais l'action, mon expérience de militaire, le fait que j'avais survécu à une blessure qui aurait dû m'envoyer ad patres, ainsi que mes enquêtes qui me laissaient en souvenir des cicatrices sur mon corps, n'avaient pas tempéré ma fougue à me mettre dans des situations impossibles. » Il aime l'action et il aime bien débrouiller les situations un petit peu complexes, même si... Évidemment, il a des petits moments de frayeur, mais ça ne lui déplaît jamais.
Non, ça ne lui déplaît jamais. On lui a adjoint ce qu'on appelle un vieux de la vieille, Amboise Martefond, qui est un ancien de la Sûreté, un ancien inspecteur de la Sûreté, qui est, comme vous l'a dit monsieur, qui est la police parisienne. Et Amboise Martefond veut lui apprendre comment on fait une enquête, le porte-à-porte, les rapports, etc. Mais Adrien Longfleur, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, il croit beaucoup en son intuition. Il se considère un peu comme dilettante. Mais au fur et à mesure des enquêtes, il s'apercevra que son intuition n'est pas toujours bonne. Donc, il la mettra dans sa poche, hein, peut-être, voilà.
Alors, il y a d'ailleurs une relation un peu maître-élève.
Tout à fait.
Effectivement, Longfleur fait confiance à son intuition, il veut rester indépendant et puis parfois c'est Amboise Martefond qui le remet un peu sur la voie de la sagesse ou d'enquête académique conforme. D'ailleurs, à un moment dans le tome 7, dans le sang des aigles, Adrien à Longfleur rencontrera Napoléon III. Mais Napoléon III lui dit vos méthodes ne sont pas toujours conformes.
Mais c'est peut-être pour ça que Napoléon III l'apprécie.
Marthe Fon, il est retraité
il
a un peu plus de 60 ans, effectivement, mais il a un passé sulfureux que vous racontez, page 47.
Oui, oui, et qu'on retrouve dans les tomes précédents, tout à fait.
Il aurait tué un homme, donc Amboise Marthe Fon, il aurait tué un homme à l'âge de 12 ans, et Vidocq, le premier chef de ce qui avait été l'ancêtre de la sûreté, l'aurait sauvé du bagne avant de l'embaucher.
Tout à fait.
Un parcours ambigu.
Mais qui n'était pas, qui était commun à cette époque-là, hein, Vidocq, quand il a été le premier, entre guillemets, chef de la police parisienne, avait pris des anciens repris de justice. Hein, il travaillait avec eux.
Alors, Marthe Fon, c'est effectivement un peu la vieille école.
Tout à fait.
À Honfleur, c'est l'avenir.
Oui, tout à fait, c'est la modernité. Il dit toujours, je suis un homme moderne, il aurait maître ingénieur, oui, tout à fait.
Et à Honfleur, vous le décrivez en tenue de grand cavalier, Irène Chauvy. Je vais vous demander de nous lire la description que vous faites de lui. C'est page 309, précisément.
Oui, c'est à la fin, oui.
J'étais en grande tenue de cavalier.
J'étais en grande tenue de cavalier. J'avais fière allure, droit sur mon cheval, à la croupe brillante d'avoir été pansée par mes soins. J'avais relevé la visière de mon casque, l'aigrette et la crinière blanche voletaient au-dessus du cimier impérial, telle une longue chevelure. La tunique en drap bleu comme le ciel ce jour-là, au collet galonné doré et au parement écarlate, m'arrivait aux genoux. Sur le devant de cuirasse en acier poli, reposaient les aiguillettes doubles, confectionné en fil doré. J'avais pris un soin particulier en revêtant mon uniforme. Le blanc de ma culotte en peau de daim tranchée sur mes bottes noires à l'écuyère, garnies d'éperons. Mes mains en gants blancs à crispins tenaient la bride de ma monture. Seules mes armes, dont mon sabre lance, étaient restées à la caserne.
Merci Irène Chauvy. Il faut dire aussi que vous ressuscitez toute la mode vestimentaire tant chez les hommes et surtout chez les dames, à travers des descriptions de leur robe, de leur tenue. Et effectivement, ça donne une image de cette société du Second Empire, brillante, élégante. Mais vous êtes tenu, de par l'histoire, de ne pas écrire n'importe quoi. Alors, vous êtes d'ailleurs très vigilante, mais je crois que vous avez écrit ce roman avec beaucoup de sources à l'appui. Mais vous écrivez « Je ne suis pas historienne de formation, mais juriste. J'en ai gardé la rigueur, mais aussi l'humilité d'accepter que je puisse commettre des erreurs malgré des vérifications historiques incessantes. » Alors, cette contrainte de l'histoire, il y a l'intrigue déjà. On en parlera de l'intrigue de ce tome 7. Mais l'histoire ne vous laisse pas totale liberté.
Oui, mais c'est un plaisir. Des fois, je me noie dans mes recherches, je me noie dans mes recherches historiques et je passe plus de temps à rechercher des sources historiques plutôt qu'à écrire. Mais c'est un plaisir pour moi.
Mais vous est-il arrivé de rencontrer des lectrices ou des lecteurs qui vous auraient reproché certaines erreurs historiques ?
Non. Je réponds impatiemment, non. Et d'ailleurs, quand j'ai sorti La Vengeance volée et que c'est passé en 10-18, c'est un historien qui a vérifié et il n'a pas trouvé d'erreur. Mais je recoupe mes sources, je prends des mémoires du temps parce que je pense qu'il faut garder l'ambiance, voilà. Mais je lis aussi les historiens de notre époque. Voilà, j'essaie de recouper, de regrouper. Voilà.
Et vous donnez d'ailleurs quelques sources historiques
à la
fin de ce roman. Donc vous avez toujours beaucoup aimé le Second Empire ? Y a-t-il une origine à cette passion pour cette période de l'histoire de France ? Bien particulière d'ailleurs.
Alors, je dirais, pour faire court, que j'ai passé à peu près en lecture toutes les périodes de l'histoire et celle-ci m'a intéressée parce que je suis tombée sur un livre, un auteur qui s'appelle Alain Corbin et qui est spécialisé dans l'histoire des mentalités. Il a écrit une histoire des odeurs, une histoire sur la prostitution, sur les cloches, etc. Et moi, j'ai découvert le quotidien de ces époques-là. Et il y a un autre auteur qui s'appelle Théodore Zeldin, un Anglais, qui a écrit aussi sur les Français. Et c'est ça qui me passionne, c'est, si vous voulez, il y a les événements, il y a la révolution, y a... Mais ce qui me plaît, c'est les détails du quotidien. Se promener dans la rue, se... de toute façon, c'est l'utilisation du jeu. Donc, on ne peut, le lecteur ne voit que ce que voit, que ce que vit à Honfleur.
Alors Irène Chauvy, on va marquer une première pause musicale. Je rappelle que vous êtes l'invité du Cercle des auteurs bourguignons et que le tome 7 des aventures d'Adrien à Honfleur est disponible dans un joli format de poche. Donc c'est un roman policier historique, c'est aux éditions Gaëlis. On évoque l'intrigue juste après. Je rappelle que nous sommes toujours en public dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons.
Merci.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous revenons en compagnie de notre invitée Irène Chauvy, Le sang des aigles, le tome 7 des enquêtes d'Adrien à Honfleur aux éditions Gaëlis, une émission enregistrée le 14 octobre dernier à la bibliothèque municipale de Semur en Aussois, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons, et nous étions en public, un public curieux et passionné. Irène Chauvy, nous l'avons dit, votre tome 7, Le sang des aigles, débute en 1866. Adrien à Honfleur revient de l'île de la Réunion. Il débarque à Marseille et là, il constate qu'il est attendu. Peut-être conviendrait-il de donner quelques éléments sur les débuts de cette nouvelle enquête du capitaine à Honfleur.
Tout à fait. Au moment du débarquement, il aperçoit deux personnages, dont l'un il le connaît, hein, c'est un policier, un commissaire, qui est d'ailleurs très proche de Napoléon III, et il a l'intuition qu'ils ne sont pas là pour une bonne raison. Il pense qu'il risque sa vie, donc il s'enfuit à travers Marseille pour leur échapper. Il va prendre le train, il va d'ailleurs voyager dans le fourgon en bagages, et puis il va rentrer à Paris en se cachant pour aller retrouver Marthe Fon. Voilà.
Et alors, en fin de compte, il va de mauvaise surprise en mauvaise surprise, finalement. Parce qu'il y a rebondissement, coup de théâtre. Et alors, ce que j'ai énormément aimé dans ce roman, c'est qu'on se déplace tout le temps. C'est un personnage aussi très, très aérien, à Honfleur. Il a toujours envie de rentrer par les toits. Ce côté un petit peu...
Moi, des fois, je dis, c'est un Lucky Luke, des fois. Tout à fait.
Se retrouve effectivement dans les rues de Paris, à différents endroits. Oui. Il y a une visite nocturne d'un cimetière où l'on cherche...
Père Lachaise, oui.
Le Père Lachaise, où l'on cherche un objet contenant un élément incontournable. Et ce qui est terrible aussi pour Honfleur, c'est qu'un de ses meilleurs amis est accusé du meurtre d'un homme, et pas n'importe quel homme, puisque c'est un représentant de la police de Napoléon III, et c'est vraiment une catastrophe. Et cet homme, donc, c'est un jeune médecin légiste qui, en plus, non seulement il risque la guillotine, mais en plus, il a perdu la mémoire.
Il a perdu la mémoire, tout à fait. Et on ne le retrouve pas. Et à Honfleur, c'est pour ça que c'est cette fuite éperdue dans Paris pour essayer de le retrouver. Et puis, comme son ami, c'est Camille, hein, a tué ce policier, si vous voulez, il entraîne dans sa chute Adrien à Honfleur. Voilà. Et Adrien veut à tout prix s'expliquer, il voudrait s'expliquer auprès de Napoléon III, mais il n'a pas accès à Napoléon III. Donc il va essayer, par les personnes qu'il connaît et qu'il apprécie, notamment la princesse Mathilde, qui est la cousine de Napoléon III.
Alors, il faut expliquer que le meilleur ami d'Alain Honfleur est accusé d'appartenir à un groupe clandestin,
préparant
un complot dans le but de faire chuter et de tuer Napoléon III, avec notamment des ramifications en Angleterre. Parce qu'on reviendra peut-être sur le règne de Napoléon III. C'est un homme, l'empereur, sa majesté l'empereur, a beaucoup d'ennemis en France.
Oui, tout à fait. Et son principal ennemi, c'est Victor Hugo, qui de Jersey. D'ailleurs, Victor Hugo, c'est lui qui a un petit peu, plongé Napoléon III dans ce qu'on appelle la légende noire. Hein. Il l'appelait Napoléon le Petit. Le Petit. Il était extrêmement violent à l'égard de Napoléon III.
Alors, justement, vous faites déambuler Adrien à Honfleur dans un Paris des années 1866, un Paris qui a connu, alors vous le savez, de par le baron Haussmann, un très grand nombre de transformations. Et d'ailleurs, c'est amusant que le roman s'ouvre. Adrien à Honfleur arrive donc par navire à Marseille. Or, on sait aussi que c'est une époque de grande prospérité économique, que la France rentre dans la modernité et qu'on y développe notamment des ports, qu'on développe surtout le transport ferroviaire. Et d'ailleurs, à Honfleur, très vite, saute dans un wagon pour rentrer à Paris. Donc, il y a tous les éléments d'une France qui se développe. Quand il est à Paris, il voit des palissades qui cachent des destructions de bâtiments. Tout cela est extraordinairement bien rendu. Et je me disais que finalement, en lycée, on pourrait très bien faire une étude transversale français, littérature, l'intrigue, les personnages et histoire, en fin de compte. Parce que tout, forcément, s'imbrique et s'enchevêtre.
Tout à fait. C'est le pari. C'est Paris en transformation. Hein. On ne pouvait pas marcher sans tomber sur une rue fermée parce qu'il y avait une excavation. C'était le moment où se créait l'opéra, tout le côté de la Madeleine. Hein. Bon, l'opéra Garnier qui sera, dont Napoléon III ne verra pas la fin. Et c'était vraiment une grande transformation parce que Napoléon III a été exilé à Londres. Et à Londres, il a vu cette ville avec ses grandes artères. Et il voulait refaire la même chose à Paris. Et c'est le baron Haussmann qui va l'aider à faire cela. Il voulait une ville aérée, une ville qui soit propre, parce que Paris était encore une ville médiévale, où, comme je dis, on jetait les pots de chambre par la fenêtre. Et avec tout ça, il démolit les vieilles maisons, etc. Ça veut dire aussi monde de spéculation, hein, parce que toute une frange d'ouvriers ou de manufactures ou de petits artisans qui habitaient Paris ne vont plus pouvoir rester dans ce Paris dont Napoléon III veut faire la ville lumière, la capitale de l'Europe. Donc les ouvriers, les pauvres vont être repoussés à la périphérie. Voilà, c'est ça. C'est un peu le côté noir des travaux d'Haussmann, mais ça fait une ville magnifique. Alors, il y a un petit peu un aspect politique, on n'en est pas certain, mais c'est vrai que Napoléon III voulait aussi ces longs boulevards s'il y avait des révolutions, ben, si vous voulez, vous mettez le canon en bout de boulevard et puis le boulet, il va tout droit et il vous casse la barricade.
Oui, voilà. Il y avait une volonté affichée de ne pas permettre d'autres barricades, puisque Napoléon III avait connu cela, bien sûr. Oui, et c'est vrai que ces avenues rectilignes, ça permettait de mettre une troupe et de tirer droit devant. Alors, on a reproché aussi beaucoup à Haussmann d'avoir trop rapidement abîmé les quartiers médiévaux de l'île de la Cité, par exemple.
Tout à fait.
Bon, il y avait un enthousiasme. Et puis, vous expliquez aussi une ville qui devient plus propre, c'est aussi l'agrandissement des égouts de Paris. Vous
Tout
parlez
à fait,
du personnage de Belgrand.
Hein. C'est, on est en période d'hygiénisme. C'est la généralisation du gaz. Alors, les maîtresses de maison n'aimaient pas beaucoup parce qu'elles disaient que ça ternissait leur teinture. Mais c'est ça, c'est le gaz, c'est le tout à l'égout, c'est l'eau potable. C'est-à-dire que Paris et la France a connu aussi le choléra.
Alors ça, il y a ce souvenir effectivement des épidémies de choléra. Alors, ce qui est amusant, c'est que il y a un antidote, il y a une boisson qu'on pense peut-être dans les milieux populaires, quoique
c'est dans le Figaro, hein.
C'est dans le Figaro de l'époque.
Tout à fait.
C'est la fameuse bénédictine, la liqueur
des herbes, ce sont que des herbes, hein. Voilà, tout à fait. Et j'ai trouvé intéressant parce que c'était au moment du Covid. Le choléra obligeait les gens à se confiner et on retrouve, c'était un petit peu un côté actuel que je trouvais un peu amusant, voilà. Et c'est vrai que les personnes essayaient de se soigner comme elles pouvaient, hein.
Et alors, je vais vous demander, Irène Chouvy, de prendre à la page 21 votre roman « Le sang des aigles », le paragraphe au bas de la page 21 où vous nous offrez une description d'un Paris nocturne où justement se côtoient des éléments anciens et un Paris aussi en pleine transformation. La nuit était déjà sur la ville.
La nuit était déjà sur la ville. Les blanchisseuses avaient quitté les bateaux lavoirs, lesquels n'étaient plus que des masses sombres amarrées aux berges, d'où s'en détachait l'ombre claire des auvents. Repoussés dans les vieux quartiers, derrière les boulevards ou boutiques au luxe tapageur, vivait et continuait à s'affairer en s'usant les yeux une multitude de façonniers. Les conditions de travail se modifiaient, les tâches pour la fabrication d'un même article se multipliaient, m'avait expliqué mon meilleur ami, le docteur Camille Laurence, qui visitait ses ouvriers en chambre. Ils étaient logés pour la plupart dans des soupentes insalubres et mal éclairées, ou dans les combles d'immeubles de rapport, quand ces pièces étroites n'étaient pas réservées à la domesticité. Menuisiers, tourneurs, celliers, couturières, brodeuses, giletiers et tant d'autres étaient employés par des négociants de vêtements, de passementeries, de mobilier ou spécialisés en cure et peau. Tous ces gagne-petits étaient au service de la vie lumière, de ses fêtes, de ses décors somptueux, de ces parvenus jamais satisfaits, tonnait Camille en se prenant pour un tribun populaire.
Merci.
C'est et le puis, résumé du Paris de cette époque-là.
Et puis, il y a tout de même cette réflexion, Paris ne serait jamais la ville pour tous, comme l'avait imaginé Napoléon III, au temps où il n'était ni empereur ni président de la République. N'oublions pas qu'il a écrit un essai « Extinction du paupérisme » alors qu'il était emprisonné au fort de Ham après avoir raté déjà un premier coup d'État qu'il réussira en 1851, le 2 décembre, précisément.
Oui,
et à Honfleur aussi, on ne peut pas dire qu'il soit très, très engagé, mais il aimerait que Napoléon III soit la figure qui remodèle complètement la France en respectant la justice sociale.
C'est-à-dire que Adrien...
Je ne dis pas qu'il est frotté de politique, il n'est pas...
Non, il est loyal, à l'empereur.
Il est loyal,
mais
c'est vrai.
Mais il voit l'envers du décor. Si vous voulez, il est reçu par Napoléon III, il se rend à des réceptions. Donc il voit le côté féerique, il voit le côté un petit peu, je cherche le terme, superficiel. Mais Napoléon III, quand même, avait en lui le bien des peuples. Il a essayé. Hein. C'est quand même en 1865, parce qu'il y a eu deux parties durant l'Empire, le Second Empire. Il y a eu la partie autoritaire, mais il y a eu la partie libérale qui était après les années 1860.
Oui, notamment quand il combat les Autrichiens pour permettre à l'Italie de recouvrer certains territoires qui avaient été... confisqué par les Autrichiens. C'est vrai qu'il était partisan du droit des peuples à
Absolument.
Disposer d'eux-mêmes. Bon, aujourd'hui,
enfin, avec des variantes.
Et on sait aussi qu'il s'est engagé dans des catastrophes, notamment la guerre au Mexique, où
tout
là, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, en 1866, la France est dans un véritable marasme militaire au Mexique, où Napoléon voulait établir un empereur qui
sera exécuté un peu
absolument.
Plus tard. Oui, tout à fait. Hein. Mais il ne faut pas oublier que Napoléon III, c'est sous Napoléon III qu'a été voté le droit de grève hein, en 1865, droit de coalition. Donc voilà, c'est un petit peu c'est contradictoire.
Mais l'autre grande catastrophe, alors... Est-ce que l'impératrice Eugénie a été mauvaise conseillère?
J'aime pas trop l'impératrice.
Vous
Adrien Honfleur ne l'apprécie pas, non, pas beaucoup. Et c'est réciproque parce que l'impératrice, si vous voulez, Napoléon III aimait beaucoup les femmes. Hein. On disait qu'il avait ses petites impératrices. Hein. Et Adrien Honfleur, il sait tout ça. Et l'impératrice... n'aime pas trop, c'est une partie qu'elle cache. Et c'est vrai que il est maladroit avec l'impératrice. Alors c'est vrai que l'impératrice a été fortement critiquée. On l'a traitée d'étrangère, hein, comme sa prédécessrice, Marie-Antoinette. Donc voilà, c'était l'étrangère.
Il y a des féminins qui sont parfois dangereux, dans la langue française.
Ça c'est l'ancien professeur de français qui va me corriger. Mais si vous voulez, si on prend aussi un des proches de Napoléon III, le comte de Persigny qui est devenu duc, et en parlant de l'impératrice, il disait une lorette qui a voulu se faire épouser. C'était pas facile pour elle. Hein. Et puis elle a été régente au moment de la campagne d'Italie. Alors, a-t-elle joué un rôle? Moi, je pense, mais je suis pas historienne. Hein, je...
En tout cas, l'autre catastrophe du Second Empire, c'est Bismarck.
Tout à fait.
C'est la menace de la Prusse, bien sûr. Et on connaît le désastre de 1870, la défaite de Sedan, l'épisode de la Commune de Paris, Thiers, et puis...
C'est vrai qu'à cette époque-là, Napoléon III, c'était un homme musé. Hein, il avait 60 ans. C'était un homme musé qui souffrait énormément de calculs, de maladies de reins. D'ailleurs, il en mourra 3 ans plus tard. Et c'est vrai je suppose qu'il a été mal conseillé, mais... Peut-être pas par l'impératrice. Hein. Ça a été une fin qui a traumatisé les Français parce que c'était la gloire, c'était la France, c'était la fierté. Il y a eu les deux expositions universelles en 1857, en 1867. Donc tout d'un coup, comme vous l'expliquez, tout s'est écroulé.
Et la France était, avec la Grande-Bretagne, les deux pays les plus riches du monde dans cette seconde moitié du 19e siècle. C'est aussi la guerre de 14-18 qui provoquera une forme de suicide de ces pays, comme l'avait dit Romain Rolland.
Tout à fait. Et la défaite de Sedan entraînera la déchéance de Napoléon III et ce sera le début de la Troisième République.
Voilà. Alors on va marquer une pause au milieu de tous nos propos martiaux, mais c'est effectivement une très belle occasion de revisiter l'aspect culturel, civilisationnel. Par exemple, on y apprend que les omnibus, le moyen de transport, dans les omnibus, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'étage.
Non, elles n'avaient pas le droit, il y avait un petit escalier qui montait et non, elle n'avait pas le droit d'aller à l'étage. Alors, est-ce que c'était parce que c'était grand vent? Est-ce que c'était... Voilà.
Mais ou est-ce qu'avec les robes, l'escalier était trop étroit?
Surtout leurs crinolines.
Les fameuses crinolines. Mais on reparlera de la mode féminine après une nouvelle pause musicale. Je rappelle que c'est Irène Chauvy qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre pour Le sang des aigles, disponible aux éditions Gaïlis. Et je rappelle que notre émission a été enregistrée en public le 14 octobre dernier dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. C'était à la bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois, un public fougueux.
Si j'étais devenu un monstre d'amour, mes jambes flanchent, mon cœur est lourd. Je finirai par m'étouffer dans tout ce velours. J'ai beau hurler, mes cris sont sourds. Transformé en monstre d'amour, et j'ai perdu famille et bravoure. Mes yeux ont appris par cœur tes formes et tes contours. Ils les devinent quand s'éteint le jour. Je sombre dans des eaux, dans des ombres, dans lesquelles je me noie. Dis-moi, quelle est cette colère qui me tord, qui me tève, que je ne connais pas.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous revenons avec Irène Chauvy dans le Paris des années 1866, cette seconde moitié du 19e siècle qui voit la France rentrer dans le mouvement de la révolution industrielle. Alors, ces aspects apparaissent. À un moment, Allonfleur est au bord de la route, il croise des cantonniers et puis il y a un tumulte qui arrive derrière eux sur la route et c'est une locomobile.
Tout à fait, locomobile.
Et alors j'adore ce que dit, c'est peut-être un des paysans ou un des cantonniers qui dit « c'est à vapeur, paraît que c'est l'avenir, moi ce que j'en sais c'est que ça empuantit nos champs ».
Tout à fait, tout à fait.
Juste avant la pause musicale, on avait commencé à parler des crinolines et il en est beaucoup question de ces femmes élégantes. Alors il y a la princesse Mathilde, il y a des petites femmes plus modestes mais qui n'en restent pas moins charmantes et qui d'ailleurs ne laissent pas insensible Adrien Allonfleur, qui d'ailleurs n'est pas toujours habillé, alors à la fin on le retrouve dans sa dignité militaire du corps des sans-gardes. Alors parfois il est grimé, hein, il porte des costumes d'homme du peuple pour passer inaperçu.
Il n'aime pas
trop. Hein. D'ailleurs, une paire de gants élimée, il refuse de
tout
la porter.
Hein,
c'est un coquet.
Ah,
hein.
Oui, c'est un coquet, tout à fait.
Sur la mode féminine, justement, j'aimerais que peut-être vous nous lisiez le passage dans lequel vous décrivez la robe de la princesse Mathilde. Donc la princesse Mathilde, c'est la cousine de Napoléon III, qui connaît bien Allonfleur et qu'il connaît bien aussi et qu'il va la rencontrer, notamment chez le photographe Nadar. On reparlera de Nadar parce que là, c'est une scène magnifique. Et puis, vous avez un sens pictural de ce Paris. Vous nous le peignez et cela aussi, Irène Chauvy, vous avez des modèles de gravure que vous respectez dans ces...
Ah oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est en lisant le journal, je vois sur une telle des ventes qu'on va vendre telle tapisserie que Nadar a dans son atelier. Bon, ben, je la décris. Voilà, j'essaie. Puis après, il y a le côté un petit peu fictionnel, mais je m'amuse moi-même à retrouver le détail, même si le lecteur ne le verra pas.
Je vais vous inviter à lire la description donc de la tenue de la princesse Mathilde. Là, vous l'avez vraiment... Vous avez fait cette description fidèlement par rapport à...
Oui, tout à fait.
Alors, c'est page 82, pardon. Je vous laisse...
Je voulais juste dire que la princesse Mathilde avait été brièvement fiancée à Napoléon III, hein, quand elle avait 15-16 ans, voilà.
Donc, c'est la fille de Jérôme Bonaparte.
Voilà, tout à fait.
Parce qu'en fait, c'est aussi toute une généalogie.
Ah, oui.
Alors, la généalogie a d'ailleurs aussi un peu de sens dans ce roman. Les Napoléons, on révise un petit peu leurs origines.
Vous m'avez dit 82, hein, c'est ça.
La princesse Mathilde avait choisi la sobriété à la fois dans sa toilette et dans sa coiffure.
Sa robe était à rayures noires sur un fond rouge assez vif. Le corsage était à manches longues bouffantes, fermé au col par un médaillon à pan de loques serti de brillants et rehaussé d'un devant en velours en forme de gilet orné de dentelles et de perles couleur ébène, le tout abritant son opulente poitrine. Un mantelet en drap bordé de duvet de cygne était posé à côté d'elle sur un accoudoir de fauteuil. Son port de tête était royal, sa coiffure sage, sans chapeau pour les besoins de la photographie. Seulement quelques marguerites qu'enlaçaient des boucles légères dans une chevelure brune sans fil blanc visible. L'ovale de son visage était à peine brouillé malgré ses 45 ans qui lui avaient apporté bien des désillusions. Son tour de taille s'était épaissi, mais c'était une belle femme au front dégagé, avec des lèvres bien dessinées, quoique manquant de sensualité. De sa personne émanait une calme, ou plutôt une malautorité, puisque de vieux courtisans affirmaient qu'elle ressemblait fort à son oncle Napoléon Ier.
Merci Irène Chauvy pour cette lecture donc de la description de la robe de la princesse Mathilde qui se trouve à ce moment-là dans l'atelier de photographie de Nadar, le célèbre photographe dont on a de très beaux clichés, notamment de Baudelaire. Je crois que 1866, au moment où se situe l'action, je crois que c'est l'année de la mort de Charles Baudelaire. Si je ne
m'abuse,
il me semble. À vérifier.
Merci, je
Mais Baudelaire, qui n'était pas très... pas très favorable à l'art photographique. Non, hein. Mais ce qui est merveilleux, c'est que chez Nadar, vous présentez Nadar comme une figure renommée, bien connue, installée au boulevard des Capucines, et qui finalement n'était pas très pro-Napoléon III.
Tout à fait. Vous avez lu finement mon livre. Je suis assez... Mais oui, tout à fait. C'était un opposant du régime. D'ailleurs, là, elle fait un petit... La princesse Mathilde va le voir. Hein, mais autrement, c'est pas le photographe de la famille de Napoléon Ier qui allait plutôt chez Disdéry, le photographe qui avait inventé le photographie format carte de visite. Mais elle y va justement pour rencontrer Allonfleur.
Alors, si Irène Chauvy décrit particulièrement bien les tenues féminines, elle sait aussi décrire les hommes. Tout à l'heure, on avait eu en début d'émission la description de Adrien Allonfleur en grande tenue de capitaine des Sans-Gardes. Et là, j'ai envie de vous lire, si vous me le permettez, oui, Irène, la description que vous donnez de Nadar. Mmh. Nadar avait de longues jambes grêles, moulées dans le pantalon à petits carreaux qu'aimaient porter les bohèmes, le torse large sous la chemise lâche et des cheveux abondants tirant sur le roux. Il était un mets de choix pour les caricaturistes dont certains comme Daumier et Gavarni étaient de ses amis. Sous sa moustache en croc, ses lèvres généreuses s'incurvaient gaiement. Et alors ce qui est magnifique, ça aussi, il y a les coups de théâtre à la fois de l'intrigue policière, donc de Allonfleur qu'on imagine toujours poursuivi par des policiers mais qui lui est toujours à la recherche de la vérité qu'il veut faire éclore et montrer notamment sa naïveté, son innocence, ainsi que celle de son camarade médecin légiste, le pauvre Camille, qui a perdu la mémoire. Il est toujours en train de courir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, coup de théâtre, il y a des écrivains qui apparaissent. Et tout d'un coup, chez Nadar, Adrien Allonfleur, qui semble quand même un garçon cultivé, il entend et reconnaît la voix de Gustave Flaubert. Oui, et il parle beaucoup des Goncourt. Apparemment, il doit avoir parfois des échanges avec les frères Goncourt.
Oui, il a connu dans les précédents livres, il a connu les Goncourt. Et les Goncourt lui ont demandé d'ailleurs de revenir les voir en grande tenue. Et puis les Goncourt, c'est vraiment les témoins du siècle. Hein, voilà.
Redoutable aussi parfois. Redoutable, et d'ailleurs, vous racontez et, hein. Et vous écrivez donc que Flaubert et les Goncourt et d'autres donc se retrouvent dans un restaurant, dernier cénacle de la vraie liberté. Donc ils s'y retrouvaient, bien sûr, Gustave Flaubert, mais aussi Gavarni, Sainte-Beuve, Théophile Gautier et bien d'autres les rejoindraient au fil des mois. Ils buvaient, mangeaient copieusement, quitte à dégueuler leur repas sur place, sauf les Goncourt. Qui aimaient à souper finement, ce ne serait pour eux qu'une plaisanterie de plus, qui deviendrait chapitre ou simple paragraphe dans un prochain feuilleton ou piquante mention dans le futur journal des Goncourt. Et c'est extraordinairement riche, et comme le disait Virginie Ravarotto de la bibliothèque municipale de ce mur en Aussoy, c'est que ce fond historique est absolument magnifique parce que c'est un décor qui est sans cesse en mouvement, derrière des personnages qui sans cesse sont en évolution dans un Paris nocturne, dans un cimetière, lui-même. Dans l'hôtel de la Païva, il y a des coups de feu et c'est absolument passionnant, un suspense haletant et j'ai envie de vous flatter, Irène Chauvy, et je le dis sincèrement, mais quel talent, mais où allez-vous Merci. Chercher tout cela ?
Dans les romans feuilletons du 19e.
C'est vrai ? Il vous inspire énormément ?
Oui, j'aimais beaucoup Balzac, hein. J'avoue que je ne relis plus Zola depuis X années, j'ai tellement peur de le plagier. Mais oui, peut-être que je suis une imaginative, je suis une littéraire.
Je voudrais revenir sur la mode féminine. À un moment, Adrien Allonfleur va rendre visite à une jeune couturière débutante, Philomène, hein, qui Philomène. Est donc une petite amie
de Camille.
De Camille. Et il y a ce passage, donc... Adrien entre dans la chambre atelier de cette couturière. Voici ce qu'il dit. Je fis un pas de côté. Je n'avais pas fait attention à la présence d'une crinoline. C'était une cage en forme de pyramide faite de cerceaux métalliques liés entre eux par des bandelettes de tissu que j'examinais en soupirant. Comme si nous, les hommes, nous exigions des femmes de s'arnacher ainsi. vous m'expliquiez que finalement, il y a un début de liberté corporelle et vestimentaire des femmes. Il faut attendre encore quelques années.
Alors, c'est vrai que
pour qu'elles aient le droit de montrer un petit peu leurs chevilles, un début de mollets.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors ça, c'est vrai qu'on le permettait, mais juste en ville, d'avoir des robes avec des tirettes, ça permettait de remonter un petit peu la robe et de montrer, la bottine, ça, c'était un peu plus provocant, c'était un peu plus, c'est plus séduisant. Mais il faut savoir que ces femmes, elles avaient le corset qui leur cassait les côtes, qui leur faisait des scolioses horribles. Elles avaient des crinolines, je disais les moitiés de ballon, qui étaient des fois d'un diamètre important. On en a parlé on en a parlé au Sénat. Hein. Alors il existait les crinolines rétractables qu'utilise la princesse Mathilde. J'aimerais bien savoir comment ça fonctionnait, moi. Ça, quand vous asseyez, ça se rétractait. Mais dans les années dans les années 66, on a commencé, la crinoline a diminué de circonférence et est devenue un cône. Donc c'est devenu un cône et ça donnera ensuite le drapé devant, c'est plat devant, et puis derrière vous avez ce qu'on appelait le pouf, la boule de crin, et pour encore mieux, on mettait un gros nœud par derrière, voilà. Donc voilà. On le voit dans les tableaux de Manet, etc. Voilà. Donc petit à petit, ça évolue. Mais avant que les femmes soient libérées de ces corsets, il faudra attendre le XXe siècle. Mais on fait des progrès dans les tissus, dans les bretelles. Voilà. Mais c'est pour ça que les femmes s'évanouissaient beaucoup, hein, et qu'on utilisait les sels,
et vous,
l'ammoniac.
Et vous citez, par exemple, un couturier d'origine britannique, comme Charles Frédéric Wirth.
Qui est un peu le début de la haute couture, et qui était fort cher, et qui tenait un magasin rue de la Paix, et qui a aidé un petit peu à ces femmes, à se libérer, à se délester, mais du moins à trouver une certaine façon d'être plus libre dans la rue, pas pour les réceptions où il y avait toujours ces crinolines, ces volants, cette passementerie. C'était très très lourd, hein, à porter.
Oui, et Frédéric Wirth, vous l'écrivez dans le roman, qu'il crée des robes pour la princesse de Metternich, donc l'amie de l'impératrice. Mais en tout cas, Adrien Alonfleur est partisan d'une mode féminine qui évolue un peu vers la sensualité. À un moment, il dit « Décidément, j'aimais la nouvelle mode qui aplatissait le devant de la jupe, reportant le volume de la crinoline à l'arrière. » Et à un moment, je crois qu'il doit arrêter une femme, et elle est assez élégante, elle porte une jolie jupe, et j'adore cette petite faiblesse d'homme qui peut, comme ça, peut-être se perdre à cause d'une beauté féminine. Il dit « Le froufroutement de sa jupe en soie faillit avoir raison de ma fermeté. » Que c'est beau.
C'est-à-dire, il dit des fois qu'il est un entomologiste. Il aime beaucoup la couture. Il aime beaucoup la mode féminine.
Il s'en moque,
il la raille, mais il apprécie. Parce que, est-ce que je peux raconter une anecdote ? Très rapidement.
Avec plaisir.
Rapidement. C'est vrai que ces crinolines, les femmes, lors des réceptions, ces dames étaient très décolletées et elles avaient tout le bas, il y avait du satin, des volants, etc. Et il se trouve qu'un jour, il y a un évêque ou un archevêque qui s'est trouvé, entre guillemets, coincé dans une embrasure de porte avec une de ces dames. Et elle a voulu s'excuser et il lui a répondu « Mais madame, vous avez pris tout pour le bas, il ne restait plus rien pour le haut. » Voilà. En substance, voilà ce qu'il lui a dit.
Le sang des aigles, donc, sur les traces des aventures du capitaine Alonfleur, qui a maille à partir donc avec les inspecteurs de la sûreté, qui doit venir en aide à son ami Camille, l'amnésique, qu'on accuse du meurtre d'un policier, et puis des documents compromettants, un complot censé faire chuter de son trône Sa Majesté l'Empereur, et puis tout le Paris de 1866 qui renaît et qui ressuscite de jour comme de nuit sous la plume talentueuse d'Irène Chauvy. C'est Le sang des aigles, c'est le tome 7 aux éditions Gaillis. Merci Irène Chauvy. Bon. Et puis on peut lire bien sûr tous les autres tomes dans cette joli petit format de poche qu'on peut emporter partout. Je remercie notre public attentif de ce cercle des auteurs bourguignons, 4e édition et dernière de l'année 2022. Rendez-vous en janvier 2023, toujours à la bibliothèque municipale de Semur en Auxois. Merci à vous le public. Et je rappelle que si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouvez sur internet sur yannickpetit.fr et que samedi prochain à 11h, je diffuserai un entretien enregistré lors de la 15e édition de Livre en Vie. C'était fin septembre dernier au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon, un entretien avec Lionel Duroy pour son roman Disparaître, où il sera beaucoup question de pays de l'Est, de la Roumanie. C'est en fait le désir d'un narrateur de quitter la France à vélo et de se rendre à Stalingrad en espérant mourir dans un fossé pour éviter à ses enfants le deuil, les pierres tombales, etc. Et c'est une réflexion sur la famille, sur la manière de mourir sans avoir à faire porter sa mort par sa famille. Mais c'est aussi un roman qui nous transporte jusqu'en Roumanie, aux portes de fer, donc dans le delta du Danube. Un très beau roman, c'est au programme de Wagon Livre, donc samedi prochain. Merci de votre écoute. À samedi prochain. Excellent congé de fin de semaine. Au revoir.
Merci, au revoir.